France Info.
France Info. L'infomédia avec Didier Siamour. Bonjour Didier.
Bonjour Lucie, bonjour à tous.
Dans l'actualité média ce matin, le magazine Hebdo, déjà en difficulté, 2 mois et demi seulement après son lancement.
Oui, après seulement 10 numéros, hein, l'hebdomadaire de Rollin Publications, qui édite également les revues 21 et 6 mois, est confronté à un avenir incertain. Les ventes en kiosque sont descendues à entre 8 000 et 10 000 exemplaires et les abonnés ne dépassent pas les 8 000 également, selon l'un des fondateurs, Laurent Beccaria. Or, le journal vise 20 000 ventes au numéro et 70 000 abonnés fin 2019 pour être à l'équilibre. Selon Libération, le 5e numéro de l'Hebdo avec sa une sur les accusations contre Nicolas Hulot a fait partir un investisseur qui devait soutenir le magazine. Cette fuite a provoqué l'annulation d'une augmentation de capital de 2 millions d'euros et empêché le déblocage de 4 millions d'euros de crédit bancaire. La direction d'Hebdo, qui dispose encore d'un million en réserve, issue des succès de ses autres revues et de la campagne de financement participatif, est en quête de nouveaux investisseurs. Et l'équipe, qui revendiquait un journalisme non partisan, fondé sur les faits et qui ne vit que de ses ventes, puisqu'il ne comporte aucune publicité, revoit sa copie pour attirer des lecteurs.
Et on signale qu'un autre hebdo arrive en kiosque mercredi, il s'appelle Vraiment, il a été créé en partie par une ancienne voix de France Info, Jules Lavie, notre confrère. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler, toujours dans la presse hebdomadaire. Didier, une nouvelle période s'ouvre pour le news magazine L'Obs.
L'Obs qui a annoncé la semaine dernière un retour à l'équilibre en 2017, après plusieurs années de pertes. Un retour à l'équilibre pas forcément lié à une augmentation de la diffusion, puisque les ventes papier du magazine ont reculé de 7,3% à près de 340 000 exemplaires. Et les abonnements sur le numérique restent modestes, eux, inférieurs à 8 000 exemplaires. Il est plutôt lié en fait à une réduction des coûts et au plan social de 2016 qui avait entraîné la suppression de 44 postes, un plan de sauvegarde de l'emploi qui avait marqué la rédaction, laquelle avait voté une motion de défiance contre son directeur de la rédaction, Mathieu Croissandeau. Et ce sentiment ne s'est pas rangé au printemps 2016 avec le licenciement brutal de son adjointe, Aude Lancelin. Alors peut-être peut-on s'attendre à une période plus calme, avec une situation économique plus saine et surtout l'arrivée d'une nouvelle directrice de la rédaction, Dominique Nora, une journaliste expérimentée et très bonne connaisseuse du magazine dans lequel elle travaille depuis 1989.
Et qui est avec nous ce matin, bonjour à vous.
Bonjour.
D'abord peut-être un mot sur la crise de la presse écrite. Comment vous analysez les difficultés qu'on évoquait rencontrées par Hebdo ?
Et en fait, le marché est structurellement en difficulté. C'est le cas des quotidiens, mais c'est le cas maintenant aussi des hebdomadaires. C'est un marché encombré en France, puisqu'il y a l'Obs, il y a Le Point, il y a l'Express, il y a Hebdo. Maintenant, il y a Marianne. Donc le marché est petit. Les gens consomment de plus en plus sur Internet et les hebdomadaires ont du mal à trouver une économie sur Internet, un business model, parce que ils étaient partis pour beaucoup, et c'était notre cas, sur un flux sur Internet d'actualités chaudes. Or, c'est plutôt l'apanage des quotidiens qui, eux, ont des rédactions de 300, 400 journalistes pour faire vivre cette actualité. Donc, tout l'enjeu pour les hebdos, maintenant, c'est de trouver des abonnés, y compris en numérique. On a un petit peu commencé, vous mentionnez 8000 abonnés. C'est pas assez par rapport à nos 300 000 abonnés papier, pratiquement. Donc l'idée, c'est de trouver une nouvelle génération d'abonnés qui s'abonnent en numérique et de leur offrir plus que les articles que nous offrons sur le papier, davantage.
Alors en termes de contenu, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que l'offre aujourd'hui n'était pas adaptée ?
Pour l'instant, on avait une offre très différente sur le papier, pour les abonnés papier, et sur le numérique avec un public plus jeune. Et on était beaucoup sur l'actualité. Donc tout l'enjeu, c'est d'offrir sur le numérique, disons, un projet éditorial qui nous ressemble plus, qui soit plus dans l'ADN de l'Obs. Et pour ça, le projet, c'est de réunir les deux rédactions, qui étaient pour l'instant très disjointes.
Donc plus de décryptage, plus d'analyse politique.
Plus d'enquête, plus de portraits, y compris les mêmes papiers, si vous voulez, qu'on a pour l'instant sur l'hebdomadaire, devront être à valeur ajoutée sur le numérique en payant. Alors, la manière dont on fait payer n'est pas encore complètement décidée, puisqu'il y a deux écoles. Au fond, il y a soit le freemium, c'est-à-dire on donne le début du papier et puis ensuite il faut payer pour lire la suite. Soit on a droit à un certain nombre de papiers gratuits et ensuite il faut payer pour le quatrième ou le cinquième.
Donc là, vous n'avez pas décidé encore le modèle.
On n'a pas complètement décidé. Je crois que les deux méthodes sont testées un peu partout sur la planète. En tout cas, ce qui est important, c'est que on veut faire plus de papier à valeur ajoutée sur le numérique pour générer des abonnements, trouver un petit peu nos communautés affinitaires en fait en ligne.
Au-delà de la difficulté de la presse, hein, papier, et de ce double positionnement papier-internet, est-ce que l'Obs lui-même, qui a accompagné hein, la gauche socialiste notamment, ne subit pas conjointement en fait les difficultés de cette famille politique?
Oui, mais il n'y a pas que les journaux de gauche qui subissent ces difficultés. Le Point et l'Express ont aussi un marché en baisse.
Non, mais je parle justement pour la situation de l'Obs en particulier. Est-ce que vous n'avez pas une double peine presque?
Oui, mais je pense que le positionnement par rapport à la gauche, la droite, telle ou telle personne, leader politique, est un petit peu obsolète. Je crois que ce qui intéresse les gens, c'est un petit peu plutôt l'intersection entre l'action publique et leur vie quotidienne. Et donc peut-être que le traitement de la politique qui est « on s'intéresse surtout aux leaders et aux partis », finalement fait l'objet du dégagisme, un petit peu comme les partis et les leaders politiques eux-mêmes. Et que je pense que les questions, en partant de la vie quotidienne des gens et ce qui les intéresse, peut-être va nous apporter un nouveau public.
Alors une avec Emmanuel Macron, qui avait beaucoup fait parler au mois de janvier sur les migrants, qui avait heurté. On a dit même qu'en interne, il y a eu pas mal de débats et ça avait beaucoup choqué. Comment vous la ressentez, vous ?
Je crois que la une n'était pas vraiment raccord avec le dossier à l'intérieur, qui était très pertinent, très fouillé.
On voyait Emmanuel Macron avec des barbelés, hein, c'est ça.
Voilà, donc
en noir et blanc.
Donc je crois que la une était un petit peu... Le sujet en lui-même sur l'immigration, c'est vrai qu'il y avait objet à critique. La politique du gouvernement était vraiment... critiquable, la une a été peut-être encore un petit peu plus forte que le dossier et c'est surtout ça qui a choqué.
Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le News Magazine, c'est encore le concept même du News Magazine, a une place sur le marché ?
Oui, je pense qu'il faut le rénover et l'adapter à l'ère numérique, c'est-à-dire que le rythme hebdomadaire est plus du tout adapté à Internet et donc le News Magazine, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de l'analyse, c'est quelque chose qui donne à réfléchir. Et ça, c'est plus que jamais un besoin dans un monde qui est en mutation totale.
Merci beaucoup Dominique Nora, invité de l'Infomédia. Et merci à vous Didier Siamour.
Merci.